vous le savez très bien que l'impact de l'injustice est différent d'une personne à l'autre. Alors il y a ceux qui peuvent être blessés par une balle, mais d'autres, un mot peut les achever. Et je connais personnellement des gens qui se sont suicidés à cause qu'ils n'ont pas pu obtenir justice au bout de la ligne. Cette société n'est pas exclue d'injustice, mais le plus grave, c'est que quand nous, les citoyens, nous restons bouche bée devant ces injustices, inactives, sans bouger, dans aucun sens. C'est comme nous sommes concernés, ou plutôt où les abus et les injustices n'arrivent pas qu'à d'autres. Ah ben, mes chers citoyens, détrompez-vous, à tout moment, vous êtes exposés à ce malheur, ou plutôt nous sommes exposés à ce malheur. Et de là, justement, découle notre vrai devoir envers cette société. Et si seulement chacun de nous, nous les citoyens, répond à ce devoir national, je vous assure que les choses vont fonctionner beaucoup mieux par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Et sûrement demain. Pourquoi demain? Parce qu'il ne s'agit pas d'une chose qui se règle du jour au lendemain. Et arrêtez surtout de s'identifier à d'autres pays. Je déplore ces gens-là qui vont vous répondre par « nous sommes mieux que d'autres pays ». Voilà l'excuse parfaite des lâches et des faibles de conscience qui baissent volontairement les bras en signe d'abandon et de manquement à leur devoir envers cette patrie, envers ce pays qui reflète une fausse image trompeuse qu'on peut tous ensemble la corriger et faire de celle-ci une image identique, honorable à une vie quotidienne remplie de respect et de considération humaine. Au micro avec vous ce matin, Adj Zitouni, président du mouvement Action Justice, un organisme en défense des droits de la personne qui fait de la surveillance publique. Nous sommes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, et j'ai à côté de moi Maître Andrea Popisco, coordinatrice de notre mouvement. Elle m'accompagne tout le long de l'émission, et comme nous n'avons pas encore ouvert une ligne directe pour vos questions, chères auditrices, chers auditeurs, nous vous invitons à nous appeler au 514-273-4302, je répète, le 514-273-4302, ou nous bien nous écrire à info@commercialmage-quebec.com. Je répète donc à info@commercialmage-quebec.com. Il fera plaisir à Maître Andrea Popisco de vous répondre en privé ou sur les ondes. Nous allons vous laisser avec Jean Ferrat dans cette pause musicale et nous reviendrons avec vous pour la suite de notre émission. Restez à l'écoute.
C'est une émission formidable sur les problèmes de société. Coup d'héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique, vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique, pour nous aider à retrouver. Tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés, ce soir je vous lance un appel, vous seuls pouvez nous renseigner. Bas-fond, la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société. Une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la une. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Qui saigne et qui charcute, entre bourreaux et torturés, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé, entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis comme une apothéose, entre SS et déportés. Ce soir, après la roue de la fortune, un baf obscène est à la une.
Voilà, bonjour, chère auditrice, chers auditeurs. Cette fois même, si j'ai envie de vous reparler des grands enjeux politiques sur la scène fédérale et sur les sorties de piste du gouvernement conservateur, plus précisément de cette descente vertigineuse sans cesse de Stephen Harper et ce changement de cap qui inquiète plusieurs spécialistes dans le domaine et qui va finir finalement par l'irréparable, il est de notre devoir de vous rappeler toujours que le 2 mai 2011, une date qui marquera le Canada à jamais, puisqu'au lieu de se débarrasser de ce Stephen Harper et de ses idées suicidaires, le peuple canadien a commis une grande gaffe en renforçant son pouvoir et en lui confiant le contrôle total de piloter et seul, je dis bien seul, ce navire qui est notre société. Très conscient que c'est le prix de la démocratie, mais à quelle sorte de démocratie nous nous sommes rendus dans ce siècle? C'est la question que je me pose et à laquelle j'ai de la difficulté bien sûr à répondre. C'est difficile de comprendre qu'est-ce qui a mené les citoyens à élire un psychopathe à un poste aussi important que celui d'un Premier ministre, et avant de poser ce geste de choix, est-ce que les citoyens sont-ils réellement conscients et avertis en quelle direction Stephen Harper nous amène-t-il? Je ne suis pas du tout certain. Donc il y a des choses extrêmement graves que le peuple ignore dans ce choix, et j'aurai l'occasion sûrement de revenir sur ces enjeux dans nos prochaines émissions, mais revenons ce matin à la base de notre mouvement, la considération et le respect du citoyen. Donc, une dame est venue nous voir cette semaine pour déposer une plainte au comité de la déontologie policière contre deux policiers. Écoutez, ce matin, j'ai oublié d'apporter avec moi les noms des deux policiers en question et leur matricule, donc je vais le faire la semaine prochaine, mais je préfère plutôt donc maintenant vous laisser écouter cette femme qui a commis un seul crime dans toute sa vie, et c'est celui de vouloir à tout prix aller voir un spectacle de la chanteuse québécoise Diane Dufresne. Et je dis bien un seul crime. Et la sentence était pénible et lourde de conséquences. Nous l'avons rencontrée dans nos bureaux. Voici le témoignage de Mme Réjeanne Villeneuve. Elle a souhaité partager avec vous ces moments difficiles et cette expérience traumatisante. Nous allons la suivre ensemble dans ce voyage tragique qui va bouleverser sa vie. Une vie déjà insécurisée et fragile par le fardeau de la maladie. Écoutons son témoignage avant de se prononcer. Donc voilà, bonjour Madame Villeneuve, voulez-vous nous dire votre nom au complet s'il vous plaît?
Oui, moi je suis Madame Réjeanne Villeneuve, je suis âgée présentement de 50 ans.
Oui.
Et après d'abord, il faut confirmé que je souffre de fibromyalgie sévère.
Depuis?
Depuis 6 ans.
6 ans. Est-ce que c'est une maladie, madame?
Ce n'est pas une maladie, mon cher monsieur, c'est une condition. C'est une très mauvaise condition, mais oui. Ça ne se soigne pas avec des pilules, ça ne se soigne pas avec du sirop, ça se soigne avec notre mental et notre mental.
Ça veut dire que j'ai bien compris, si je pose la main, vous avez des douleurs partout, dans tout le corps.
J'ai des douleurs de la racine des cheveux jusqu'au point des orteils, monsieur. Oui.
Et vous traînez avec ça depuis 6 ans, si j'ai bien compris.
Oui, monsieur.
Oui. Madame Vinet, vous êtes là ici. Pourquoi aussi aujourd'hui?
Parce qu'il m'est arrivé une mésaventure très, très, très désagréable que je veux dénoncer, je veux que les citoyens, les simples citoyens sachent qu'est-ce qui arrive autour de nous et qu'ils ne voient pas et que j'ai subi. Oui. Je veux le dénoncer et je veux me battre.
Bravo. Et je veux savoir aussi, donc, si je reviens dans le temps, cet événement était à quelle date?
C'était le 2 septembre 2011, exactement.
Voilà. Est-ce que je peux savoir qu'est-ce qui t'est arrivé le 2 septembre 2011, madame?
Oui, monsieur. Moi, je suis une très, très, très grande fan de Diane Dufresne.
La chanteuse
Diane Dufresne. Ouais. Pour moi, elle est très importante depuis l'âge de 12 ans.
Depuis 12 ans, vous suivez la chanteuse Diane Dufresne?
Depuis l'âge de 12 ans, j'ai entendu la première fois chanter. J'ai tout de suite accroché. Je me suis comme trouvé un mentor, une dieu, une mère. J'ai tout trouvé en elle, ce que j'avais besoin pour vivre cette
vie. Mais vous aimez cette personne-là seule? Est-ce qu'il y a-t-il d'autres chanteurs ou pour vous, c'est elle?
Non, j'aime la musique en général et tout. Mais je n'ai qu'une idole et c'est Diane Dufresne. Et je vais la voir depuis 38 ans, mais partout dans le Québec, je suis allée la voir.
Qu'est-ce qui est arrivé le 2 septembre? Est-ce que c'était un
très mauvaise mésaventure, très désagréable.
Vous habitez à Montréal, j'imagine, madame?
Oui, j'habite à Montréal et puis je lisais le journal de Montréal une semaine avant les événements pour voir qu'elle donnait un spectacle dans la ville de Lévis, à l'extérieur, ce que je préfère encore de plus qu'une salle fermée. Suite à ça, à avoir
vu... Vous avez décidé de partir là-bas?
Oui, j'ai décidé de partir, de m'organiser un petit voyage, parce que je n'ai pas beaucoup de sorties, je n'ai pas beaucoup de loisirs à cause de ma condition physique, qui est très, 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 très pénible. J'avais 50 ans au mois de mars, j'ai pas pu rien faire, j'ai pas pu aller manger au restaurant, je n'ai rien fait pour mes 50 ans, parce que j'étais cloué au lit.
Anniversaire, oui.
Ouais.
Mais là, le 2 septembre, vous décidez d'aller voir... la chanteuse Madame Diane Dufresne, c'est ça?
Oui, Madame Diane Dufresne, exactement.
Vous étiez contente et tout d'aller, j'imagine, et tout.
J'étais très, très emballée.
Donc, vous avez pris quoi? Le taxi, l'autobus?
Non, à partir de là, j'ai appelé puis j'ai loué une chambre d'hôtel dans la ville de Lévis.
Vous avez réservé une chambre d'hôtel?
Une chambre d'hôtel, parce que le spectacle était le samedi soir, donc après le spectacle, il fallait que j'aille faire dodo.
Ça veut dire, Madame Villeneuve, vous avez pris toutes les...
Tout. J'ai acheté un billet de train d'avance, j'ai réservé la chambre d'hôtel et je me préparais mentalement pour aller voir mon idole.
Bravo. Et donc, vous partez directement, vous arrivez là-bas.
Oui, je pars le vendredi après-midi, il est 1h de l'après-midi. Puis je prends le train, j'arrive à Lévis à 3h30 à ma chambre d'hôtel.
Bravo.
De là, je me prends un bon bain pour me relaxer, pour être bien dans ma peau, pour essayer de tenir les douleurs à l'écart. Je fais tout à mon...
Et vers quelle heure vous avez...
J'ai quitté la chambre d'hôtel, il devait être à peu près 6h30.
Le spectacle était à quelle heure?
Et le spectacle était vers les 9h.
Bravo, donc à 5-6h, vous êtes parti avant, on a peut-être pris une avance.
Oui.
Et voilà, vous êtes sorti de l'hôtel.
Je sors d'hôtel et bon, il devait avoir des navettes qui partaient de l'hôtel pour l'amener sur le site du spectacle. Ce que je n'ai jamais vu, c'est qu'on me dit qu'il n'existait pas.
Il n'y avait plus.
Non. Donc j'ai rencontré des gens... très, très gentil, à qui j'ai demandé si on pouvait m'aider à me rendre sur le site. C'est ce qu'on a fait. On m'a emmené, des citoyens ordinaires m'ont emmené jusqu'à un stand d'autobus.
Dans leur véhicule, j'imagine.
Dans leur véhicule privé, oui. Ils m'ont emmené à un endroit où il y avait un autobus qui me prenait et qui m'emmenait sur le site. Sauf qu'il n'y a pas eu un autobus. Il y a eu deux autobus qu'il a fallu que je prenne.
Enfin, finalement, avec toutes les conditions de transport qui étaient un petit peu très difficiles et délicates et tout, vous vous rendez sur le site...
Oui, je suis arrivé sur le site. Dans l'autobus, j'ai vu le coucher du soleil et avant même d'arriver au site, j'ai vu la lune.
Ouais,
donc, ça s'est fait assez rapidement. À la,
20 heures à peu près.
À peu près 20 heures, ouais. Oui, dans les alentours.
Non, vous êtes toute contente, j'imagine. Vous approchez au site. Qu'est-ce qui t'est arrivé après, madame?
Mais quand je suis arrivée sur le site, prime abord, c'était un site qui était très accidenté. Je ne sais pas si on comparait que si je veux faire un tour à la montagne du Mont-Royal, il faut que je monte la montagne. Ouais. Mais dans cette situation-là, c'était dans le creux. C'est une vallée.
C'est-à-dire le lieu était difficile à
accéder. Il était très, très, très difficile. Et déjà avec me faire bousculer dans les autobus et tout ça, j'ai commencé à avoir des douleurs physiques. Ouais. J'ai commencé. Et à la fin de la journée, c'est plus douloureux qu'au début de la journée.
Bravo. Donc le lieu était très difficile à accéder ici, mais il y avait quand même énormément de spectateurs ou non?
Oui, il y avait quelques milliers de personnes.
Quelques milliers de personnes. Donc
ouais.
Vous accédez au site.
Oui.
Et puis, qu'est-ce qui arrive, madame?
Et puis, à bout de souffle. J'accède au site près du stage à bout de souffle. Oui. Mais Diane n'est pas encore sur le stage. Il y a une autre invitée qui est en première partie. Ce n'est pas Diane. Donc, je me rends compte que je dépéris. J'ai des problèmes respiratoire, j'ai la gorge sèche, j'ai les poumons sèches et je vibre un peu, je tremble un peu parce que j'ai trop de douleur. Donc je me rends, je vois sécurité. Ah, sécurité, on va m'aider, bravo.
C'était dirigé vers la sécurité pour leur demander quoi, madame?
Pour demander des soins. Des soins médicaux, pour demander de l'aide humanitaire, demander est-ce qu'on peut m'aider à respirer, est-ce qu'on peut me mettre à part pour quelques minutes que je puisse reprendre.
Chercher un réconfort un petit peu.
Réconfort.
Un premier soin, oui.
Un premier soin. Bravo. De l'eau. Il y a 15 000 personnes sur le site, ils ne sont pas capables de me donner une bouteille d'eau. Okay. Je ne comprends pas.
Maître Villeneuve, Madame Villeneuve, excuse-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces agents
bon,
de sécurité?
C'était des jeunes hommes.
Oui.
Je ne les blâme pas des jeunes, mais je les blâme des insouciant, par exemple.
Ouais.
Ils m'ont dit, qu'est-ce qui arrive, madame? J'explique en gros ma situation. Je suis dans une crise de fibromyalgie. Aidez-moi, ça va passer dans 15 minutes, mais j'ai besoin.
Je demande de l'aide, c'est tout. Ouais.
Je demande de l'aide.
Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, madame, suite à ça?
Ils m'ont dit, madame, attendez, on va aller chercher quelqu'un d'autre et ils vont vous aider. Quelqu'un d'autre est arrivé.
Okay.
Des gorilles, dans mon langage et dans ma vue, des gorilles. Des gorilles, ce sont des hommes de 200 livres et plus.
Oui, ça, c'est pas grave, des personnes, des gros personnes, oui.
C'est pas grave, mais sauf que dans mon cas, ça n'allait pas jouer en ma faveur.
Voilà, l'attitude, oui.
Pas du tout, l'attitude. Et bon, de là, on me demande encore ce que j'ai. Donc, je suis encore obligée de répéter mon histoire.
Oui.
Et de là, on me transfère à l'intérieur de la zone.
À
l'intérieur de la zone qui est fixée pour
sécurité.
La sécurité.
Oui, sécurité, oui.
Comme une ambulance. Disons une ambulance.
Un autobus qui était fait spécialement pour les soins, les premiers soins, j'imagine.
Il était fait, mais ils n'ont pas servi pour les premiers soins, monsieur.
Oui, okay.
Je ne comprends pas encore.
Ils vous ont amené dans ce
autobus? Oui, de là, les gens m'ont traversé la clôture et de là, on m'a dit, OK, venez, on va s'occuper de vous. Le monsieur qui a un habit, une chemise d'ambulancier, me saisit par le bras. Ça, je ne veux pas. Je dis au monsieur...
Vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas. Ça, c'est très difficile, douloureux pour vous, madame, à cause de votre condition.
Oui, monsieur. Ma condition fibromyalgique me donne mal à la chair. Je ne sais pas si vous savez, mais de la chair,
c'est
on en a...
Tout ce qu'on comprend, que énormément. Normalement, dans ces conditions, il faut que personne ne mette la main sur vous, c'est ça?
Exactement.
Exact.
Donc, je supplie le monsieur de me lâcher. Que je vais
l'expliquer. Que vous avez des douleurs, vous l'expliquez, vous avez des douleurs.
Que j'ai des douleurs.
Est-ce qu'il vous a relâché, madame?
Il a relâché mon bras.
OK.
Mais il n'a pas relâché aujourd'hui.
Oui.
Ils m'ont fait entrer dans cet autobus.
Oui.
Ils ont fermé la porte. Et je vous jure, il faisait très chaud cette soirée-là.
Vous
retiendrez la température, c'est une journée qui faisait chaud.
Vous sentez-vous étouffé un petit peu?
J'étais très étouffé.
Oui.
Je ne pouvais pas respirer.
Mais qu'est-ce qu'ils ont fait une fois ils sont
Ils m'ont obligé à m'asseoir.
Oui.
Ils ne voulaient pas que je bouge. Mais moi, ma condition fibromyalgique, je ne peux pas rester dans la même position plus que 5 minutes. C'est marqué dans mon rapport médical.
Ils sont interdits de bouger, c'est ça?
Ils m'interdisaient de bouger.
Okay.
J'ai supplié, demandé d'ouvrir les portes d'autobus pour me donner de l'air. On se moquait de moi. On se moquait carrément.
Ils n'ont pas voulu ouvrir la porte. Oui.
Ils n'ont jamais ouvert la porte.
Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, madame, enfin? Est-ce que vous avez apporté des soins?
Pas du tout. J'ai supplié de l'aide. Et finalement, on m'a donné un petit contenant de plastique avec de l'eau salée.
Oui.
C'était tout ce qu'il y avait, mais je l'ai pris parce que je ne pouvais plus
qu'est-ce
rien.
Qu'est-ce qu'ils ont fait, madame Villeneuve, après ça?
Après ça, ils m'ont dit d'attendre que quelqu'un viendra m'aider.
Oui.
Après, je dirais un gros 20 minutes, si ce n'est pas plus. Je m'excuse pour le temps, là.
Oui.
Dans la souffrance, on ne calcule pas le temps.
Exactement.
Vous
attendez qu'il y a quelqu'un qui va venir vous donner des soins, c'est ça?
Oui, je m'attends que quelqu'un va venir s'occuper de ma santé physique.
Qui est arrivé, madame?
Un auto de police.
Et une voiture de patrouille.
Une voiture de patrouille de police de Lévis.
Et donc deux policiers sont présentés devant vous?
Deux gorilles, excusez, deux policiers, oui.
Oui?
Oui. Oui.
Qu'est-ce qu'ils ont fait, madame?
Ils m'ont dit de les suivre.
Vous les avez suivis?
J'ai pas le choix, monsieur. J'ai pas le choix, monsieur. Il y a 4 à 6 gorilles autour de moi. Je n'ai vraiment pas le choix.
Il y avait plusieurs policiers ou il y a juste deux policiers?
Il y a seulement 2 policiers, mais les autres gorilles du site étaient encore autour de moi.
Mais deux policiers, avez-vous expliqué votre cas aux policiers, madame?
Ils n'ont jamais voulu m'écouter.
Vous avez essayé de tenter, ils n'ont pas voulu?
Non, ils ne m'ont jamais demandé mon nom. Ils ne m'ont jamais demandé, ils m'ont jamais dit pourquoi ils m'entraient dans un auto de police. J'avais besoin d'aide de santé et non d'être transporté par un auto de police.
Vous avez expliqué ça, ils n'ont rien voulu savoir.
Ils n'ont jamais rien voulu savoir. On s'est moqué de moi, on a tout fait. Là,
vous
je
disiez,
commence.
Madame, ils sont moqués de moi. Dans quel terme vous disiez qu'ils ont...
Madame, qu'ils n'ont même pas porté attention à mes besoins réels.
Oui.
J'ai pas des besoins réels de soins.
De soins. Oui, les soins.
Et maintenant, j'aimerais vous me laisser parler parce que il y a trop d'interruptions. Je vais. Maintenant, OK. De là, je suis obligée d'embarquer dans l'auto de police. De là, on m'emmène. J'explique ma situation. J'explique dans les détails ce que je suis venue faire à Québec. J'explique dans les détails ma condition. Et on se moque de moi. Ça rentre par un oreille, ça sort par l'autre. On ne m'écoute pas du tout. Là, on m'emmène et on m'emmène. Et moi, je leur dis... Écoutez, j'ai besoin d'aide, j'ai pas besoin de... J'ai dit, au pire, allez, si j'ai fait quelque chose d'incorrect, s'il vous plaît, par pitié, débarquez-moi à ma chambre d'hôtel. Dans le pire des cas, si je suis pas bienvenue sur le site, parce que on m'a sorti du site, s'il vous plaît, par pitié, emmenez-moi à ma chambre d'hôtel, que j'aille me reposer, puis que je puisse retourner chez moi le lendemain. C'est trop. Mais non, ils se sont moqués de moi, ils m'ont dit, on t'emmène voir un bon docteur. Rendu là, j'ai compris. J'ai compris.
Ils vous ont amené où, madame?
Ils m'ont amené en psychiatrie à l'hôpital. Pas à l'urgence. Pas au tri. Directement. Enfermé. Ils m'ont arrêté.
Chers auditrices, chers auditeurs, nous allons faire une pause musicale, mais cette fois nous allons dédier cette chanson spéciale à Madame Villeneuve, une chanson bien sûr de Diane Dufresne, notre chanteuse québécoise qui a triomphé en France dans les années 77-78, et au Québec, Diane Dufresne, comme vous le savez, est une légende vivante. De là, peut-être on comprend l'énigme de Madame Villeneuve à vouloir suivre cette chanteuse partout où elle s'en va. Donc, restez à l'écoute et on va revenir avec le témoignage de Madame Villeneuve à la suite de cette pause.
Ah, c'est sûr, je n'avais pas fait mon premier show sans vous dire quelque chose. La chanteuse straight, c'est moi. Song.
Pour toutes les voix décidantes en faveur d'un changement social, en bas, à gauche, des nouvelles de la résistance tous les mardis matins 9h sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM.
Non-stop sur les Antilles, une émission de variété, un plaisir à la découverte, une émission à savourer sans modération.
Musique. Information, éducation, histoire, débat.
Non-stop sur les Antilles.
Mardi, 12h30. Sur Radio Centre-Ville, 102,3 FM.
C'est un rendez-vous.
Insérez une plaque porte-clés des amputés de garde dans votre trousseau de clés par mesure de sécurité. Si vous perdez vos clés, l'association pourra vous les retourner par messagerie. Commandez vos plaques porte-clés au 1-800-250-3030 ou à amputedegare.ca.
Travail global.
Pour trouver un travail immédiatement, attention, nouveau bureau à Laval au 4040 boulevard Le Corbusier.
Pour travailler immédiatement, téléphonez au 450-937-6662 ou visitez travailglobal.com.
Pour Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud, trouvez un emploi avec Travail Global.
Nous représentons la réalité multiculturelle de Montréal. Plusieurs langues, plusieurs communautés, une même implication sociale. En matière de musique, Radio Centreville vous fait voyager aux quatre coins du monde. Radio Centreville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Donc, on va reprendre la seconde partie du témoignage de Madame Réjeanne Villeneuve, résidente de Montréal, et cette tragédie. Écoutons son second témoignage.
Villeneuve, on vous écoute. Vous voulez qu'on reprenne?
D'accord. Je suis en route vers la chic hôpital de Lévis. Et,
Vous pensez aller à l'urgence, c'est ça?
Je croyais qu'on m'emmenait aux soins à l'urgence, oui, vraiment. Au début, j'ai cru. Mais j'ai quand même compris dans l'auto avec leur façon et qu'ils m'ont dit très clairement, madame, on t'emmène voir un très bon médecin.
Ils se moquaient de vous, madame.
Ils se moquaient de moi, mais j'ai compris qu'on m'emmenait en psychiatrie. De là, dès là, j'ai compris. Donc, pourquoi la raison du suppliage pour qu'on me laisse à la chambre d'hôtel, ce qui n'a pas été fait? On arrive à l'hôpital. On me fait rentrer par une petite porte. Pas par les urgences. Une petite porte à l'hôpital. Une petite porte à côté de l'urgence, mais secrète. J'appellerais ça une porte secrète, que personne n'a dû rentrer.
Oui.
Je n'ai pas passé au tri. Je n'ai pas été vu par aucun médecin. On m'a carré directement enfermé dans l'aide psychiatrique. Barré la porte.
Ah, les policiers étaient avec vous, là?
Les policiers m'ont abandonné à l'entrée de l'hôpital.
Oui.
Quand je suis arrivé, là, encore là, il y a 4 à 5 gorilles qui mettent leurs gants et qui les font péter. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, l'image, tic-tac-tac, pour faire leurs frais, là. Ils ont l'air, ils se moquent encore de moi, là. Ils me connaissent pas, ils m'ont même pas vu encore.
Ça, c'est le service de psychiatrie.
De l'hôpital psychiatrique, oui.
Mais là, moi, je reviens un petit peu sur
les policiers,
moi, ce qui m'intéresse. Donc, une fois, ils vous ont débarqué comment? Ils vous ont pris, ils ont tiré de la voiture?
Non, monsieur, j'obéissais. J'obéissais au doigt et à l'œil. J'avais tellement peur pour ma petite peau qui me restait. Ouais. Je vous jure, monsieur, j'ai marché.
Est-ce que, madame Villeneuve, je veux savoir, est-ce que, au cours du chemin, si vous avez demandé aux policiers, écoutez, moi je suis malade, j'ai besoin d'aller à l'hôpital j'ai besoin des soins.
Oui.
Est-ce que vous avez expliqué ça?
J'ai tout expliqué, monsieur.
Ils n'ont rien voulu savoir.
Ils ne voulaient rien savoir. J'ai été ignorée. J'ai été passée comme une malade mentale. Je sais. Regardez, aujourd'hui, j'ai pas de dents dans ma bouche parce que j'ai été obligée de faire enlever mes dents à cause de ma condition. Maintenant, je fais mes dentiers bientôt, mais je suis en processus. Ça ne veut pas dire que je suis malade mentale parce que j'ai pas de dents. J'étais habillée comme une femme. Bien habillé, regarde, il n'y avait aucune raison. J'ai demandé pourquoi, donc, ils m'ont jamais répondu.
J'ai bien compris, c'est les policiers, une fois, ils vous ont abandonné devant ils ont conduit à la section psychiatrique, ils sont repartis, c'est ça?
Ils sont repartis.
Ouais.
J'ai jamais entendu parler d'eux encore et je suis à la recherche.
Quel est le calvaire que vous avez eu en rentrant en psychiatrie?
Mais c'est encore là, on m'a même pas envoyé au tri pour me donner des soins. Non, on a décidé, il y a quelqu'un qui a pris la décision de me mettre en cage.
Est-ce que les policiers, ils ont dit à l'hôpital, sur un psychiatrique, comme quoi cette femme-là, il faut l'enfermer ou...
Les policiers ont seulement dit, est-ce qu'on l'envoie au tri ou dans le trou? Et quelqu'un a répondu, dans le trou. Je ne sais pas qui, je n'ai pas vu cette personne.
Ouais.
Ils ne m'ont pas passé au tri, ils ne m'ont pas pris ma pression. Ils m'ont rien pris. Ils m'ont enfermé dans un trou barré. Ça, c'est le début. Après ça, ils ont ouvert la porte encore 4-5 gorilles. Ils m'ont obligé de me déshabiller devant tout le monde. Ils ont même offert une femme pour venir m'aider à me déshabiller. C'est dégradant. J'avais chaud. J'étais tout trempé partout. Elle avait, c'est dur d'enlever ses pantalons de cuir quand c'est une situation comme ça.
Pourquoi ils ont déshabillé? Parce que
j'aimerais savoir, quand un coup qu'ils t'emmènent, oui, ils te donnent une chemise de nuit, mais ils ont même pas pris la peine de fermer la porte, de me donner mon intimité.
Ils sont rendus à quelle heure là-bas, madame, à l'hôpital?
Ils devraient être entre 9h et 10h.
9h et 10h. Et vous êtes resté là-bas, dans quelles conditions, à part être enfermé dans une...
Ils m'ont enfermé, ils m'ont obligé de me déshabiller, la porte ouverte, tout le monde pouvait regarder, j'ai trouvé ça très dégradant. Ils ont refermé la porte, à peu près une demi-heure plus tard. Ils sont revenus. Ils me trouvaient agitée. Ce que je n'étais pas. Ce que je faisais tout pour me contrôler, pour pas qu'il m'arrive pire que qu'est-ce que j'étais rendu. Mais ils ont fait le pire. Ils sont revenus vers 10h15. 4 gorilles. Des hommes seulement. Avec un genre de médecin ou infirmier, je ne sais même pas. Avec une seringue dans leur main, une aiguille qui est gros comme une épingle pour coudre, avec à peu près 1,5 once à 2 onces de liquide dans la seringue. J'ai très bien vu ça.
Ils ont injecté ça dans le bras?
Et ils m'ont obligé. J'ai refusé qu'on me donne des médicaments. Je l'ai refusé des soins. À ce moment-là, c'était pas ce que j'avais besoin. J'ai refusé cette injection. Ils me l'ont donné.
Oui, oui.
Ils me l'ont donné parce qu'il y a 4 gorilles autour de moi, puis il y a l'autre qui a la piqûre, et j'ai pas le choix, monsieur.
Ils me sont forcés, je vous comprends.
Non, ils m'ont piqué. Il est 10h15. À 10h30, c'est la dernière fois que j'ai vu, il était quelle heure. Et je suis tombée sur la connaissance. Qu'est-ce qui s'est passé en 10h30 et 8h30 le matin? Je n'ai aucune idée. Est-ce que quelqu'un est venu vérifier si j'étais bien? Est-ce que quelqu'un a abusé de moi? Je n'ai aucune espèce d'idée. Je me pose de sérieuses questions sur notre système.
Et aujourd'hui, madame, vous êtes ici pour dénoncer tout ce qui vous est arrivé. Est-ce que vous avez un message à dire aux citoyens, à des gens? Est-ce que vous voulez vous dénoncer ici pour éviter à d'autres personnes le même calvaire ou quoi, madame?
Je dénonce ici parce qu'en 2011, ce n'est pas croyable qu'il y ait des pauvres citoyennes comme moi qui est hors combat de la vie à cause d'une maladie et qu'on abuse de moi et qu'on abuse de moi. Je n'en peux plus.
Aujourd'hui, madame, je sais que vous êtes ici devant le mouvement Action Justice. Vous demandez aussi, est-ce que vous avez les noms des policiers qui vous ont conduit?
Monsieur, non, ils m'ont jamais donné leur nom. J'ai demandé, bien demandé dans l'auto parce que je savais quand même que tout ce qu'ils faisaient n'était pas logique et légal.
Vous les avez demandé, ils ont refusé de vous donner matricule et nom?
Ils se sont moqués de moi tout le long du chemin jusqu'à ils m'ont embarqué jusqu'à ce qu'ils me débarquent. Ils m'ont ignoré, ils se sont moqués de moi. Ha, 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 comme ça.
Madame Villeneuve, avez-vous quelque chose à dire aux citoyens aujourd'hui?
Oui, les citoyens, je veux dire aux citoyens de ne pas se laisser faire, mais on n'a pas le choix. Mais quand ça arrive, s'il vous plaît, déclarez ces situations, ces pauvres situations, sinon ça ne fait que continuer. En 2011, il n'y a pas lieu d'avoir des abus de pouvoir parce que les hommes sont gros et grands et pas forts. Moi, je pèse 80 d'une livre et je vous dis qu'il y avait toujours entre 4 gorilles autour de moi pour que je sois obligé d'exécuter ce qu'ils me disaient. C'est inhumain.
Madame Villeneuve, vous avez...
immoral.
Qu'est-ce que vous avez souhaité? Vous avez souhaité que ces policiers viennent vous aider, vous amener dans l'hôpital d'urgence pour avoir des soins. C'est ça, madame, ce que vous avez souhaité?
Oui.
Merci bien, madame Villeneuve. Merci pour votre témoignage. Merci.
Rebonjour, chère auditrice, chers auditeurs. Donc voilà, c'était le témoignage de Madame Réjeanne Villeneuve. On veut juste rassurer Madame Réjeanne Villeneuve comme quoi nous avons les noms des policiers en question et leur matricule. Et déjà, il y a une plainte acheminée au comité de la déontologie policière. Écoutez, on va juste repasser une autre... chanson de Madame Dufresne, Didier toujours à Madame Villeneuve. Donc restez à l'écoute. Après cette pause musicale, on va revenir avec Maître Andrea Popisco pour connaître un petit peu son opinion vis-à-vis à cette histoire. Thank you.
s'énerve, il s'en déprime. J'aime autant pas lire le journal. Ce qu'on sait pas, ça nous fait pas mal. On n'est pas venu au monde pour se regarder nombrir. Mais quand il tombe des bombes, faut bien se mettre à l'abri. Il y a des enfants qui meurent de faim au Bangladesh, en Éthiopie. Mange ta main, garde l'autre pour demain. Quand j'y pense, ça me coupe l'appétit. Il y a aussi la crise du pétrole. Tout le monde s'énerve, tout le monde s'affole. J'ai peur de me réveiller la nuit avec un arabe dans mon lit. Des bombes, faut bien se mettre à l'abri. Quand j'ai le goût de croire à mon étoile, je lis la chronique astrologique. Puis quand je vais me remonter le moral, je lis la colonne écologique. Les pages du sport, je trouve ça sexy. Mais je lis pas les pages féminines. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont cesser de prendre les femmes pour des crétines. J'achète les journaux à potin, j'ai la vie d'un vedette par cœur. Quand il leur arrive des malheurs, on dirait que ça nous fait du bien. On n'est pas venu au monde pour se regarder nombril. Mais, gars, dit en des ventes, faut pas se mettre à l'abri. Détournements et
Voilà, donc c'était Diane Dufresne avec sa chanson L'actualité. Donc, chers auditeurs, je retourne vers Maître André Popisco pour... bonjour Maître Popisco, ça va bien. Oui. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui et j'aimerais bien, au nom de nos éditeurs, de connaître quel est votre avis par rapport à cette histoire, cette expérience de Madame Villeneuve.
Oui, pour débuter, j'aimerais juste dire que moi aussi, je suis une grande admiratrice de Diane Dufresne, et surtout voilà. De ses tableaux. Je les ai découverts en 2007 lorsque j'étais à Québec avec le travail et j'apprécie beaucoup son art. Donc, pour revenir au cas de Madame Villeneuve, oui. J'ai beaucoup de sympathie pour cette Madame, surtout parce qu'il s'agit d'une dame qui est affectée par un diagnostic de fibromyalgie sévère. Oui. Je sais que moi-même, dans mon expérience de juriste, j'ai eu quelques cas à la CSST et je me suis un peu renseignée sur ce genre de diagnostic. La majorité des experts ne reconnaissent pas cette maladie. Donc, c'est déjà, sans rentrer dans les détails, je ne suis pas ici, bien entendu, à titre de médecin ou ouais, donner une opinion par rapport à ce point, mais je sais qu'on ne reconnaît pas habituellement ce genre de conditions. Quoiqu'il y a d'autres experts, des psychiatres, des neurologues, etc., qui reconnaissent cette condition de fibromyalgie. Donc, il se peut, ça arrive régulièrement que les gens qui souffrent de cette maladie, on ne les croit pas ou on ne comprend pas exactement ce qu'ils subissent. Donc, c'est difficile pour les autres de se mettre à leur place.
Non, mais juste la seule chose, Maître, il faut être certain, on a toujours entendu le témoignage de Mme Villeneuve, il s'agissait vraiment elle s'étouffait, elle manquait d'air et tout, et c'est ça qui a fait qu'elle avait besoin de l'urgence, d'une urgence.
Oui, elle avait besoin d'une urgence et elle invoquait également sa douleur physique.
Tout à fait, oui.
Mais ce que j'essaie de souligner, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas palpable, on ne sait pas d'où ça vient, pourquoi on a cette condition. Oui. Donc, les gens ne savent pas trop comment
réagir
à un cas comme celui de Madame Villeneuve.
Oui, mais même si elle n'était pas, par exemple, même si un citoyen, si vous me permettez, Maître Popisco, même si quelqu'un, un autre citoyen, il avait à un moment donné, je ne sais pas, une crise cardiaque ou il avait un problème respiratoire ou n'importe quoi, il avait besoin, il demande d'avoir une ambulance. Hein. Est-ce que cette ambulance-là, à la place de le transférer à l'hôpital, on le transfère dans une aile psychiatrique? Est-ce que c'est policier d'avoir ce droit-là de juger à quel endroit il va l'amener ou...
Mais tel que vous me posez la question, non. Mais ouais. Je crois que c'est très important de faire aussi les nuances nécessaires. C'est sûr que dans l'histoire de Madame Villeneuve, il y a certains bouts qui me manquent à moi. Donc, je ne suis pas capable. Premièrement, je ne suis pas ici à titre d'avocat pour conseiller juridiquement Madame Villeneuve ou donner des opinions juridiques en ligne, surtout en onde. Mais c'est sûr qu'il faut agir d'une certaine façon avec les gens qui sont en état de détresse ou ils ont une certaine condition. Donc, nous, lorsqu'on fait appel à leur aide, surtout quand nous sommes dans le cadre d'un concert, il y a les organisateurs, il y a les agents de sécurité, etc. Oui. Donc, on doit se montrer courtois, on doit donner l'aide nécessaire à ceux qui ont besoin de se faire soigner.
Vous voulez apporter le secours nécessaire.
Le secours nécessaire, exactement. Et non, c'est pas aux policiers de juger si telle personne doit être amenée à psychiatrie ou pas. Il faut surtout traiter les citoyens, même si l'agent de la paix considère que peut-être la personne est en train de troubler la paix ou je ne sais pas, a des motifs raisonnables de croire que bon, ça serait bien qu'une intervention policière se fasse. L'agent en question ou les agents en question doivent toujours se montrer très respectueux et courtois envers la personne. C'est pas parce que la personne, comme madame disait, elle présentait certains signes, par exemple, elle n'avait pas les dents elle était en état de détresse, ça ne donne pas le pouvoir, l'autorité aux policiers pour autant de marginaliser, voilà le terme, ou de de porter des jugements de valeur, etc.
Oui,
donc, malheureusement, dans mon expérience, j'ai entendu des histoires, j'ai vu des cas où les policiers, de bonne ou de mauvaise foi, je ne peux pas me prononcer là-dessus,
oui.
Ils sautent vite aux conclusions en disant cette personne-là, elle est affectée par des troubles de santé mentale, donc elle mérite moins on va la prendre moins en considération, on va la traiter d'une certaine façon. Ouais. Alors que le policier, même si bien entendu il n'est pas psychiatre ni psychologue pour déterminer telle personne est affectée par des troubles de santé mentale ou bien telle personne est en psychose, etc. Je fais un parallèle avec le cas de Mario Hamel,
l'itinérant,
etc. Je pense qu'on, dans le cadre de notre formation en tant qu'agent de la paix, il faut savoir déceler certains symptômes ou certaines choses qui nous font croire. Peut-être que la personne est atteinte, soit elle est en détresse, puis savoir comment réagir, s'ajuster à certaines situations, n'est-ce pas?
Mais vous savez aussi que la considération, c'est prise de considération aussi. Hein. Alors qu'on a entendu le témoignage de Mme Villeneuve, les policiers sont arrivés sur le lieu, ils n'ont pas s'identifié, ils n'ont pas lui informé ils vont aller où, ils l'ont conduit, donc ils n'ont pas répondu à ses questions, toute une série de...
C'est extrêmement triste ce qui s'est passé dans cette histoire. Comme je vous dis, je ne suis pas ici, je ne connais pas tous les détails de l'histoire, mais juste entendre le témoignage de Madame Villeneuve, il me semblerait même que les policiers ont procédé à l'arrestation de Madame, puisqu'il y a eu
une arrestation
qui semblerait, bien entendu, je n'ai pas tous les faits, peut-être illégale, parce que il y a une entrave à la liberté physique de Madame Villeneuve. Elle a demandé d'être reconduite à sa chambre d'hôtel, alors qu'on a décidé plutôt de l'amener
à l'hôpital.
Ouais. Donc il y a eu là une arrestation, selon moi, bien entendu, si je me fie à la version donnée par Madame Villeneuve.
Ouais.
Et les policiers n'ont légalement pas le droit d'agir ainsi, à moins qu'ils croient qu'il y ait des motifs raisonnables de croire que Madame Villeneuve est en train de troubler la paix, etc., qu'ils veulent mettre une fin à ça. Mais il faut quand même, dans un premier temps, s'identifier, lui dire, Madame, vous êtes en état d'arrestation, on vous arrête, on croit que votre santé est en péril, on veut vous soigner, etc. Il faut donner des explications à la personne. On ne peut pas juste décider d'amener ça donne vraiment ouverture à l'arbitre. C'est pas possible.
Mais c'est bien, Maître Andrea Popisco, parce que quand même, c'est votre... C'est une opinion, hein, comme ça. Et vous, à votre avis, qu'est-ce que vous, par rapport à ça, qu'est-ce que vous conseillez à ces gens-là, aux citoyens qui vont être vis-à-vis d'une situation semblable?
Et comme Madame...
Est-ce qu'il va crier, écoutez, arrêtez là, vous agissez mal, est-ce que les citoyens devraient connaître certaines choses et dire certaines choses aux policiers? Peut-être que le policier va s'arrêter, puis il va retourner, puis il va corriger un petit peu l'erreur ou quoi?
Oui, mais écoutez, on parlait de ça aussi la semaine passée. C'est sûr que si on peut, dans le cas de Madame Villeneuve, c'était un peu plus difficile puisqu'elle était souffrante physiquement.
Oui, c'est vrai.
Mais c'est important lorsque nous sommes en train de discuter avec des policiers ou des agents de l'ordre en général, des agents de la paix. Il faut toujours collaborer, il ne faut pas se montrer agressif ou, bien entendu, s'ils nous font mal, ils sont en train de nous menotter, ça nous fait mal, il faut verbaliser ça, mais il faut toujours, donc, moi, le conseil que je donne aux gens, c'est dans la limite du possible, bien entendu, de collaborer avec la police. Il y a des cas comme celui de Madame Villeneuve où elle était souffrante, elle était un peu endettée. Je la comprends parfaitement. Alors, c'était aux policiers de s'ajuster à madame et non pas madame de s'ajuster aux policiers.
S'ajuster à la police, oui.
Mais ce sont des cas un peu complexes puisque, par exemple, si on prend l'histoire de cette dame, il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués, n'est-ce pas? Il y a les organisateurs du spectacle, il me semblerait. Ils n'étaient pas si bien organisés que ça. Il manquait d'eau, il semblerait, etc. Les agents de sécurité qui ne savaient pas trop comment réagir face à ce genre de situation.
L'infirmerie aussi.
Les ambulanciers aussi, bon, qui semblerait, ne se sont pas comportés adéquatement, selon le dire de Madame Villeneuve. Bien entendu, la police et même l'hôpital de Lévis. Donc, voilà, tous ces gens-là, ils peuvent avoir une part de responsabilité si jamais Madame estime qu'elle a subi des dommages.
Enfin, voilà. Maître, c'est parfait parce que c'était on a voulu juste vous poser la question, avoir votre opinion personnelle, pas autant comme avocate, mais autant comme citoyen. Mais je voulais en même temps profiter de vous poser une autre question d'un auditeur qui nous a posé si un agent de la paix, par exemple, peut-il m'interpeller et me demande de m'identifier. Ça, c'est une question que quelqu'un, un auditeur qui m'a posé. Voulez-vous lui répondre?
Excusez-moi, donc s'ils peuvent...
Je répète la question, c'est un agent de la paix.
Oui.
Peut-il m'interpeller et me demander de m'identifier?
Ok. Écoutez, encore une fois, il faut faire des nuances. Habituellement, si la personne en question n'a pas posé un geste qui laisse croire à l'agent de la paix, au policier, qu'il a commis un crime ou une infraction, ou il est sur le point de le faire, le policier ne peut pas juste... décider de m'arrêter dans la rue et de me demander de m'identifier. Il y a certaines situations, par exemple, comme les barrages routiers où on arrête tout le monde. Et à ce moment-là, ce genre de demande est tout à fait justifié. Mais en principe, les agents de la paix doivent avoir des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu quelque chose qui fait en sorte que, bon, je dois montrer mes actes d'identité.
Donc, vous êtes en train de lui dire que le citoyen peut s'objecter?
S'il n'a rien commis, mais si l'agent lui explique pourquoi... Par exemple, ça m'est arrivé à moi il y a quelques semaines. J'étais accusée par un agent de police de ne pas avoir arrêté complètement un arrêt.
Ah oui, oui.
Donc, à ce moment-là, il m'a demandé vos actes, madame, etc. Mais il m'a expliqué, ou bien il me l'a pas dit complètement, mais bon... à ce moment-là, je lui ai monté mes papiers. Donc, vaut mieux toujours monter les documents.
Et deux choses, là, Madame Maître Popisco, vous disiez, est-ce que la question, pour que je puisse répondre aux auditeurs, est-ce qu'il s'identifie ou il s'objecte à la...
Mais écoutez, je ne peux
pas
vous répondre.
Mieux de s'identifier, vous voulez dire, c'est ça?
Je crois que oui, même s'il n'a pas de raison.
Même s'il n'a pas de raison.
Vaut mieux s'identifier toujours que de donner des.
Même si le policier a tort, le citoyen devra.
C'est mon opinion personnelle.
Moi, je partage aussi le même. Je pense que même le citoyen dans cette position-là, il devra s'identifier. Écoutez. Voilà, chère auditrice, cher auditeur, c'est malheureusement tout le temps qui reste de notre émission. Permettez-moi d'abord de remercier Madame Réjeanne Villeneuve pour son témoignage et son courage de dénoncer l'attitude inacceptable de ces deux policiers. Nous allons bien sûr continuer à suivre le développement de ce dossier. Merci aussi à Maître Andrea Popisco pour ses interventions et ses conseils. Merci à Madame Rosemonde Logo pour le soutien technique et pour son choix de musique.
Chaque année, plus d'un million d'enfants au Canada écrivent au Père Noël. Et le Père Noël leur répond. La livraison de ces lettres n'est pas une tâche facile. C'est pourquoi Poste Canada a demandé à quelques facteurs spéciaux de lui donner un coup de main. De qui s'agit-il? Eh oui, les reines du Père Noël. Ils possèdent beaucoup d'expérience de livraison. Voici d'ailleurs Nez Rouge et ses collègues.
Par ici, les gars.
Écrivez au Père Noël, Pôle Nord, H-O-H-O-H-O, Canada. Inscrivez votre adresse de retour et le Père Noël vous répondra. Une initiative des bénévoles de Poste Canada.
Stéphane Pagliaro qui vous parle. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis de 15h à 16h pour les Tremplins Nouvelle Vague. Entendre de nouveaux artistes, d'incontournables chansons, de musique de film, d'inoubliables sketchs et de patchwork inédits. Les Tremplins Nouvelle Vague, votre émission sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM, la radio multilingue de Montréal.
Radio Centre-Ville,
102,3 FM.
Les comptes à rendre
seront rendus ce matin
parce que il n'y a jamais de fin.
Le dimanche matin de 6h à 8h sur Radio Centre-Ville, le 102,3.
Qu'elle s'appelle Cocotte, vieille bagnole, Bazou, Taco, Minoune, votre vieille voiture peut terminer ses jours la tête haute et aider à sauver des vies. Ici Jacques Duval. Participez à la lutte contre les maladies rénales en donnant votre vieux véhicule à la Fondation canadienne du Rhin. Le remorquage est gratuit, vous recevrez un reçu d'impôt et votre auto sera entièrement recyclée. Faites don de votre vieux véhicule en appelant au 1-888-228-8673 et visitez rhinquebec.ca.
Votre soleil quotidien se retrouve sur Radio Centre-Ville, votre station communautaire connectée à la diversité, aux communautés de Montréal. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.